Bienvenue dans Perspectives croisées. Aujourd'hui, on se pose une question, simple en apparence, mais vertigineuse au fond. Quand le pape atterrit sur le continent africain, est-ce qu'on assiste à un pèlerinage pour accompagner des âmes? Ou bien est-ce qu'on est, disons, les témoins d'une des opérations géopolitiques les plus sophistiquées du XXIe siècle?
C'est tout l'enjeu, oui. Et c'est la question soulevée par Radio Tam Tam Afrique.
Exactement. Ce réseau a diffusé une analyse vraiment fascinante récemment qui décrypte la tournée historique du pape Léon XIV. Une tournée qui dessine une géographie extrêmement délibérée. On parle de l'Algérie, du Cameroun, de l'Angola et de la Guinée équatoriale.
Un choix très spécifique, c'est clair.
Et le Vatican affirme évidemment qu'il s'agit d'un déplacement strictement pastoral. Mais pour ma part, je suis convaincue que cette analyse démontre, sans l'ombre d'un doute, une vraie stratégie d'influence globale. Une stratégie où les concepts moraux servent de levier mécanique pour modifier les équilibres économiques et les rapports de force.
Eh bien, moi je rejette totalement cette lecture géopolitique froide. Je suis convaincu qu'il s'agit intrinsèquement d'une mission pastorale authentique. La résonance politique massive de ce voyage, parce qu'elle existe, hein, je ne le nie pas, ce n'est pas le fruit d'une ingénierie diplomatique.
Ah bon ?
Non, c'est simplement la conséquence inévitable du nouveau statut de l'Afrique. L'Afrique, c'est devenu le cœur démographique battant de l'Église. On risque vraiment de voir un machiavélisme institutionnel là où il n'y a au fond qu'une réalité humaine et spirituelle en mouvement.
Mais pour ceux qui nous écoutent et qui demandent de pourquoi un discours pastoral devrait intéresser les marchés financiers ou les chancelleries mondiales, il faut qu'on plonge directement dans la mécanique de ce voyage.
Allez-y.
Le document pose un postulat clair. Aucune visite de cette ampleur n'est neutre. Et ça, c'est pas une simple observation, c'est une règle de physique diplomatique. Regardez la cartographie, c'est pas un tirage au sort spirituel.
Non, bien sûr que non.
Vous avez l'Algérie au nord, le Cameroun comme carrefour central, et puis l'Angola et la Guinée équatoriale, deux puissances avec des ressources colossales, mais aussi des défis de gouvernance extrêmement complexes. L'analyse souligne que le vocabulaire même du Vatican est une façade.
Une façade, c'est un grand mot ça.
Quand Léon XIV se parle de réduire les inégalités, le texte indique qu'il vise très concrètement un équilibre économique. C'est du soft power chirurgical, vous ne trouvez pas ?
C'est là que le mécanisme que vous décrivez est défaillant, selon moi. Le rapport confond l'intention avec l'impact. Oui, la taille de l'événement crée une onde de choc politique, c'est indéniable. Mais affirmer que cette onde de choc est le but de la manœuvre...
C'est le but.
Laissez-moi finir. L'affirmer, c'est ignorer comment l'institution fonctionne de l'intérieur. Imaginez un tremblement de terre. L'épicentre, il est purement spirituel. C'est une messe qui rassemble des millions de personnes, une prière pour les exclus. Mais le tsunami que ça déclenche vient frapper les rivages économiques et politiques du pays.
Et vous pensez que le pape ignore qu'il va déclencher un tsunami ?
Non, mais vous observez ce tsunami, vous voyez les structures étatiques vaciller et vous en déduisez que le pape contrôle l'océan pour faire plier les gouvernements. C'est faux. L'Église vient à la rencontre d'un troupeau, elle ne déploie pas une stratégie militaire.
Sauf que le pape n'est pas une force tectonique aveugle, hein. C'est un chef d'État souverain. Et il est doté du réseau diplomatique le plus ancien du monde. Le tsunami n'est pas accidentel, il est calculé.
Calculé vraiment ?
Absolument. L'analyse de Radio Tam Tam décortique justement cette sémantique. Prenons l'équivalence que je mentionnais. Parler d'inégalité équivaut à exiger un rééquilibrage macroéconomique. Je veux m'arrêter sur le comment de cette influence. Pensez à la manière dont fonctionne un président de banque centrale.
Une banque centrale ? Attendez, on parle du Vatican, là.
Oui, mais écoutez la comparaison. Quand le gouverneur de la Réserve fédérale prononce le mot « prudence » lors d'une conférence de presse, il ne fait pas de la philosophie. Il fait ce qu'on appelle de la « forward guidance ». Les marchés s'ajustent instantanément, des milliards de dollars sont déplacés.
Ouais.
Parce que ce mot déclenche un mécanisme précis d'anticipation.
Et vous comparez la doctrine sociale de l'Église à des manipulations de taux d'intérêt.
Exactement. Parce que le mécanisme est identique. Quand le pape atterrit en Angola et qu'il prononce un discours sur les inégalités, il donne instantanément une couverture politique et un bouclier moral aux évêques locaux.
Mmh.
Et ces acteurs locaux s'en servent pour faire pression sur le gouvernement, notamment concernant la distribution des revenus du pétrole. Les investisseurs étrangers, qui observent cette instabilité potentielle, ils ajustent leur perception du risque souverain. Le pape n'a pas touché à un seul tableur Excel. mais par la force de sa forward guidance morale, il modifie la dynamique d'investissement de toute une nation.
C'est une intervention macroéconomique délibérée, selon vous.
C'est exactement ça.
D'accord. La mécanique que vous décrivez existe sur le terrain. L'impact est réel. Mais l'analogie avec le banquier central, elle s'effondre sur un point fondamental. L'ADN même d'un banquier central, c'est de manipuler l'économie. Son univers est exclusivement financier.
Et l'univers du pape est global.
Non, la raison d'être fondamentale du pape, c'est le salut humain. L'équilibre économique dont parle l'analyse n'est pas le but de l'institution, c'est la traduction matérielle incontournable de sa doctrine. Comment vous pouvez prendre soin de la dignité humaine dans les périphéries de Luanda sans aborder les conditions de vie réelles des gens?
Vous devez en parler, oui, mais la façon de le faire...
L'être humain n'est pas un pur esprit. Prendre soin des fidèles implique organiquement de s'attaquer aux déséquilibres qui les écrasent. C'est pas parce que l'appel à la justice sociale a des conséquences macroéconomiques palpables que la messe se transforme soudainement à un sommet du G20.
Pourtant, les effets sont les mêmes qu'un sommet du G20?
Les effets, oui. Mais le but n'est pas de régler les taux directeurs mondiaux. Le but est de restaurer la dignité. Le désordre économique qui s'ensuit n'est que le bruit que fait la dignité quand on la redresse.
C'est une très belle formule. Mais si cette influence géopolitique n'était qu'une répercussion organique, un simple effet secondaire de la pastorale, comme vous l'affirmez, comment vous expliquez le choix de l'Algérie ?
L'Algérie s'inscrit dans le dialogue interreligieux, tout simplement.
Sauf que là, l'enjeu de la répartition des richesses ou de la masse démographique catholique y est totalement différent. L'Église y est une ultra-minorité. Ça nous force à regarder l'autre monnaie d'échange qu'il déploie. Et la source l'identifie très bien, le dialogue interreligieux.
Oui, un aspect crucial de la visite.
Le texte affirme très clairement que lorsque le Vatican évoque ce dialogue, il agit sur les rapports de force culturelle. En Algérie, où l'islam est religion d'État, ce dialogue n'est pas une conversation théologique innocente, c'est une stratégie de positionnement institutionnel.
Vous utilisez systématiquement un vocabulaire de projection de puissance, hein. Stratégie de positionnement, rapport de force, agir sur...
Parce que c'est la réalité géopolitique de la région.
Mais agir sur un rapport de force, c'est pas nécessairement chercher à le remporter ou à s'imposer comme un hégémone.
Alors quel est le but, honnêtement ? Si ce n'est pas de consolider sa propre sphère d'influence face aux autres puissances culturelles et religieuses. L'Afrique du Nord, c'est un carrefour d'influence moyen-orientale et occidentale. Le Vatican vient planter son drapeau, c'est évident.
Planter son drapeau, ça non. Non, le but est la survie pacifique. Pourquoi présumer qu'agir sur les dynamiques culturelles relève forcément d'une volonté de domination ? Dans des sociétés complexes, le désamorçage de ces rapports de force est la condition absolue pour qu'un voyage spirituel et qu'une présence minoritaire soient simplement possibles.
Donc c'est bien une démarche de survie.
De survie de la communauté, oui. Le pape Léon XIV ne va pas en Algérie pour conquérir des parts de marché spirituel. Le mécanisme diplomatique qu'il active par ce dialogue sert à neutraliser les tensions historiques. Il voit en l'autre un partenaire pour stabiliser le tissu social. Ce n'est pas un adversaire géopolitique à neutraliser. Réduire l'accolade entre deux leaders religieux à une simple tractation de pouvoir, c'est vraiment passer à côté de la profondeur de la démarche.
Attention, je ne dis pas que l'accolade n'est pas sincère sur le plan personnel. Pas du tout. Je dis que l'appareil d'État Vatican, qui l'organise, lui en calcule le rendement. Et c'est exactement ce que l'analyse met en lumière avec ce concept de changement de paradigme.
Quel paradigme, Okala ? Celui de l'Afrique comme centre ?
Oui, je cite le passage clé du rapport. L'Afrique, aujourd'hui, n'est plus un simple terrain. Elle devient un centre stratégique. Ce mot « stratégique », c'est le pivot de notre débat.
C'est un mot lourd de sens, en effet.
Il faut visualiser ce que ça signifie concrètement pour une institution vieille de 2000 ans. L'Europe se sécularise à une vitesse fulgurante. Les églises se vident. L'Amérique latine est de plus en plus fragmentée. Donc, l'Afrique n'est plus juste un terrain de mission. C'est le canot de sauvetage institutionnel de Rome.
Un canot de sauvetage, carrément.
En la qualifiant de centre stratégique, l'analyse montre bien que le Vatican traite désormais le continent d'égal à égal, non pas par une charité soudaine, mais par pure nécessité de survie géopolitique.
Alors, le terme stratégique dans le rapport est tout à fait exact, mais votre prisme de lecture est erroné.
Pourquoi donc ?
Vous interprétez la stratégie comme une manœuvre de rétention d'un empire en déclin. Pour l'Église, un centre stratégique, ça se définit d'abord par la vitalité démographique et la ferveur. Si l'Afrique n'est plus un simple terrain, ça signifie qu'elle n'est plus vue sous l'angle du vieux modèle paternaliste du 19e siècle.
Bah c'est ce que je dis, ils s'adaptent.
Ils reconnaissent l'Afrique comme le moteur contemporain de l'institution. C'est différent d'un repli tactique.
Justement. Et c'est pour protéger ce moteur que chaque mot devient calculé. Le document dit bien que chaque mot du pape devient un signal. Pourquoi ? Parce que si vous perdez ce moteur africain, l'institution s'effondre à l'échelle mondiale.
Mais non, chaque mot devient un signal parce que le monde entier braque désormais ses projecteurs sur ce continent. La loupe médiatique et politique est immense, justement en raison du poids de l'Afrique dans l'avenir de l'humanité. Le poids des mots de Léon XIV est proportionnel à cette importance vitale.
Ce n'est pas un agenda secret, selon vous ?
Pas du tout. Vous mentionniez la mécanique tout à l'heure. Regardez comment la foi s'incarne. Les fidèles africains vivent des réalités extrêmes. L'institution répond à ses fidèles avec les mots de son temps. C'est une croissance organique, c'est pas l'exécution d'un plan quinquennal élaboré dans les couloirs obscurs de la curie romaine.
Le problème de cet argument de la croissance organique, c'est qu'il occulte totalement l'infrastructure diplomatique mobilisée. Vous ne pouvez pas me dire que l'inclusion de la Guinée équatoriale dans cette tournée relève simplement de l'élan spirituel spontané.
C'est un pays qui a besoin d'un message fort, c'est tout.
Mais c'est un acteur économique très particulier. On parle d'un appareil d'État hautement centralisé, avec des défis immenses en matière de droit et de gouvernance. Organiser une visite papale là-bas, rencontrer les chefs d'État, négocier des prises de parole publiques à Malabo, et ce, à côté d'un géant pétrolier comme l'Angola. L'architecture même de ce voyage est fondamentalement politique.
Personne nie la dimension politique des rencontres.
Radio Tamtam a raison. Le Vatican vient parler aux structures de pouvoir. Il utilise son capital moral incontestable comme un levier pour forcer ces structures à s'adapter à ses vœux économiques et sociales. C'est l'essence même de l'influence huétique.
Vous pointez un paradoxe très réel, je vous l'accorde. Le Saint-Siège dialogue effectivement avec les structures de pouvoir. Le pape Léon XIV n'est pas naïf, hein. Il sait parfaitement que serrer la main d'un chef d'État en Guinée équatoriale ou au Cameroun, ça a un poids immense.
Nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, mais vous tirez de cette réalité la conclusion la plus cynique possible. Savoir qu'une action aura un impact politique ne signifie pas que la finalité de cette action est le pouvoir. Pourquoi l'Église dialogue avec ses structures étatiques ?
Pour s'assurer un poids sur l'échiquier.
Non, parce que ce sont ces mêmes structures qui déterminent concrètement la vie, la mort, la faim ou la prospérité de ces millions de fidèles. Le capital moral n'est pas utilisé pour accroître la puissance de l'État du Vatican au sens mondain. Il est, en quelque sorte, dépensé pour protéger les plus vulnérables.
Mais dépenser du capital moral pour forcer un État à changer sa politique, c'est la définition exacte de l'ingérence géopolitique. Que l'intention soit noble à la rigueur n'y change absolument rien.
Il y a une différence fondamentale entre l'ingérence géopolitique qui cherche à asservir ou à contrôler et l'incarnation spirituelle qui cherche à élever. Si on réduit l'action de Léon XIV à un grand échiquiédiste diplomatique, on devient aveugle à la nature même de la foi.
C'est une lecture un peu idéaliste.
L'Église s'incarne dans les réalités politiques africaines, mais elle ne cherche pas à s'y substituer pour dominer le continent. La puissance de frappe de ce voyage démontre simplement que le spirituel, quand il touche la réalité d'un centre démographique majeur, eh bien, il bouleverse les structures matérielles par sa simple force de gravité.
Je crois qu'on touche ici au nœud de notre désaccord. Et il est temps de consolider nos visions respectives à la lumière de cette analyse fascinante.
Allez-y, je vous en prie.
De mon point de vue, le document de Radio Tam Tam nous offre un véritable décodeur de la réalité internationale. Il lève le voile sur le vernis strictement pastoral pour révéler un Vatican suprêmement stratège.
C'est votre lecture ?
Et les faits la soutiennent. Par ce maillage géographique précis, l'Algérie pour le positionnement interreligieux, le Cameroun comme hub central, l'Angola et la Guinée équatoriale pour peser sur les modèles de redistribution économique, l'institution déploie une mécanique d'influence magistrale. L'Afrique est devenue leur centre stratégique global et le pape y déploie une diplomatie d'adaptation remarquable.
Et moi, je maintiens que cette lecture purement stratégique passe à côté de l'essence du phénomène. Le rapport a l'immense mérite de souligner l'impact factuel de cette tournée, c'est vrai, mais y voir une machination globale, c'est inverser les causes et les conséquences.
Vous restez sur l'idée de la force de gravité, alors ?
Exactement. La dynamique qu'on observe, c'est la traduction organique, bruyante et inévitable d'une réalité humaine massive. L'Afrique est le centre de gravité de l'Église. Quand le chef spirituel s'adresse à ses fidèles, il aborde leur réalité matérielle parce que la dignité l'exige. L'onde de choc n'est pas le but de la mission, c'est la preuve éclatante que la force pastorale, ancrée dans le réel, peut faire trembler les fondations des sociétés.
Eh bien, s'il y a bien une chose sur laquelle cette source nous force à être d'accord, c'est la fin du mythe de la neutralité.
Absolument. Là-dessus, on se rejoint.
On a bien vu à travers nos échanges que la présence même de la papauté dans ces quatre nations agit comme un catalyseur, qu'on y voit le fruit d'une forward guidance morale calculée ou l'onde de choc d'une simple prière pour la dignité. Au final, aucune prise de parole de Léon XIV n'est anodine. Notre désaccord persiste juste sur le moteur de cette influence visée, l'intention géopolitique d'un côté contre l'effet de bord spirituel de l'autre.
C'est ça. Et c'est tout l'intérêt de confronter ces différentes grilles de lecture. Le matériel de Radio Tam Tam nous oblige vraiment à naviguer dans cette complexité sans simplifier la réalité.
Il sera d'ailleurs passionnant pour ceux qui nous écoutent de suivre les répercussions concrètes de cette tournée dans les mois à venir. Observer comment les politiques locales vont s'ajuster, ou non, aux signaux envoyés. Assistez-vous au déploiement d'une stratégie implacable ou êtes-vous témoin de la force brute d'une pastorale qui finit par faire trembler les murs du monde matériel ? C'est à vous de juger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.